Bienvenue à bord du vaisseau Hyper Sans Sas.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cine Explore. J'ai rencontré mon invité au cours d'une soirée organisée par l'Unipop au cinéma Jean Eustache à Pessac et qui a excité ma curiosité par son intitulé « Fenêtre sur cour, analyse de film par Carole Desbarats ». Non seulement j'allais pouvoir voir l'un de mes Hitchcock ou même l'un de mes films préférés sur grand écran, mais en plus on allait avoir le bonheur de l'entendre analyser. Je me suis inscrit et je n'étais pas au bout de mes surprises. Au cours de la soirée, j'ai compris que Carole Desbarats allait non seulement analyser le film, mais qu'elle avait en plus la ferme intention de le faire avec nous. Nous avons donc, sous son œil bienveillant, participé à décrypter plusieurs séquences du film, un exercice que j'ai adoré et que j'adore encore faire. Trouver les clés de lecture d'une œuvre, voir s'il y a un message que je trouve à travers ces clés, projeter un peu de moi dans ce que je vois et j'entends, bref, vivre pleinement mon rapport à l'art. À la fin de la séance, j'ai demandé à Carole si elle acceptait de me rencontrer pour une interview, ce qu'elle a fait, et elle m'a donné rendez-vous dans un café parisien quelques jours plus tard. C'est le 3 octobre 2022 que nous nous sommes retrouvés, rue Montmartre, et que nous avons discuté, en terrasse, du cinéma, du plaisir qu'il nous procure, de cinéphilie, de transmission, et de futur du média cinéma. Une discussion que j'ai trouvée passionnante à bien des égards et qui, j'espère, vous passionnera aussi. Bonne écoute à tous. Bonjour Carole Desbarats.
Bonjour.
Alors moi je vais prononcer au sud-ouest hein, puisque c'est de là
mais
que
oui,
je viens.
Donc, mais oui, bonjour, vous avez raison.
Carole Desbarats, si ça
carrément,
vous en
est. C'est bien.
Merci de me recevoir pour cette interview. Critique, alors essayiste,
oui.
Vous m'avez dit aussi enseignante.
Surtout.
Voilà, parce qu'il se trouve que j'avais donc de mauvaises informations. Vous êtes multifacette et puis je voudrais aborder avec vous donc chacune de ces facettes. Mais dans un premier temps, je voulais vous parler de votre activité auprès des plus jeunes dans les salles de cinéma. Vous faites notamment partie du groupe de réflexion Les Enfants de Cinéma qui a pour vocation de créer un désir de cinéma auprès des plus jeunes et qui est à la base de la création du dispositif École et Cinéma que le CNC met de plus en plus en avant aujourd'hui. Alors, c'est quoi pour vous créer un désir de cinéma chez les plus jeunes dans la situation actuelle ?
C'est d'abord très important. Et je n'ai pas le même discours maintenant que je l'avais il y a une dizaine d'années. Parce que depuis que les fake news nous ont envahis, que le complotisme envahit les cours de récré, mais du primaire, les gamins racontent des choses sur la Terre plate et des choses comme ça, je trouve qu'il est encore plus important de montrer des très beaux films aux enfants. Pourquoi ? Parce que c'est très maladroit de vouloir détruire la croyance de quelqu'un lorsqu'il est persuadé qu'effectivement la Terre est plate. Soit vous arrivez à travailler avec des données scientifiques, à croiser des données, à lui faire comprendre que non. Soit vous procédez par le détour. Et en pédagogie, on travaille beaucoup le détour, c'est-à-dire on n'y va pas frontalement, mais on va par exemple travailler une très belle œuvre, un très beau film, et on va exercer le regard, la critique, exciter l'émotion et permettre de s'approprier l'émotion sur une très belle œuvre. Et le pari, c'est que si on fait ça sur plusieurs belles œuvres, l'enfant va développer son sens critique et qu'après, il l'appliquera sur les objets qui ne sont pas des belles œuvres, qui sont du complotisme. Vous voyez, moi je fais partie d'une génération qui, dans des années où vous n'étiez pas né, dans les années 80, s'est évertuée à expliquer aux enfants que la publicité, c'était pas bien. Et nous étions voués à un échec certain. Parce que la publicité, c'était des micro-récits et que les gosses adoraient ça. Et donc, moi, au bout d'un certain temps, je m'en suis rendu compte, je me suis dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il vaut mieux, pour aider les enfants à aborder des grandes œuvres cinématographiques, partir sur leur plaisir, partager leur plaisir, leur proposer des choses qu'ils vont aimer, qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils vont aimer.
Quel regard, du coup, est-ce que vous portez sur le dispositif, justement, du CNC, École et Cinéma ?
Alors, il a une histoire, ce dispositif. Il faut en parler parce qu'il a évolué. En 1994, le CNC a commandé une étude sur comment montrer des films aux enfants du primaire. Et il a commandé cette étude à Ginette Dissler, qui tenait une salle de cinéma au Havre et qui était connue pour son travail avec les enfants. Et elle a prescrit de faire une association qui s'occuperait d'un dispositif à travers toute la France pour montrer avec des instituteurs volontaires, heureusement que l'État les paye quand même, volontaires, des films. Et l'idée, elle est double. Elle est montrer les films dans leur lieu écologique naturel, à savoir la salle, et former les instits. C'est-à-dire faire que les instits n'arrivent pas juste avec leur amour du cinéma ou leur curiosité devant les enfants, mais avec un savoir-faire, avec une réflexion qu'ils puissent partager pour que quelque chose se passe d'autre que j'aime pas, ce qui n'a jamais fait avancer le public. Et donc ça c'est en 94, ça se met en place et très très vite on arrive à une couverture de tout le territoire. Quand je dis tout le territoire, ça comprend les dom-toms, c'est pour que vous voyez à quel point c'est quelque chose qui compte. En 2018, quand l'association Les Enfants de Cinéma a été dessaisie par le CNC de la gestion, de la pensée et du suivi de École et Cinéma, on touchait plus d'un million d'enfants et ça se passait très bien. Simplement, c'était une association, et par définition une association 1901 en France, c'est assez libre, ça n'en fait qu'à sa tête. Et peut-être que dans l'état technocratique dans lequel on est, ça n'allait pas tout à fait. Donc, il y a eu un appel à initiative, qui est une drôle de truc. C'est un peu comme un appel d'offres, mais ce n'est pas un appel d'offres. Et nous ne l'avons pas gagné, ce qui ne nous a pas surpris. Une autre association l'a remporté. Cette association s'appelle Passeurs d'images. C'est elle qui tient actuellement le dispositif École et Cinéma et qui, je sais, fait vraiment du travail pour que les enfants rencontrent les belles œuvres comme nous l'avions fait.
Donc un regard, au final, peut-être un peu désenchanté, mais globalement positif.
Ah, je pense qu'il est très important que ça continue. C'est-à-dire que si on enlève les dispositifs École et Cinéma, on va enlever la possibilité que les enfants voient autre chose que ce que le marché leur impose. Parce qu'actuellement, un enfant, sauf un enfant de cadre supérieur ou un enfant de classe sociale supérieure, il voit ce qui a les plus grosses affiches, le plus gros merchandising et ce qui lui est recommandé, entre guillemets, c'est-à-dire prescrit, par les médias. Et donc, il ne va pas savoir que peut-être une petite fille de 10 ans adorerait Les Demoiselles de Rochefort. Alors que si vous le montrez, une petite fille de 10 ans, elle adore.
Oui, ma fille a 4 ans et elle adore Les Demoiselles de Rochefort. Voilà.
Donc. Et donc, vous lui avez montré.
Oui.
Vous faites partie des classes culturellement aisées, et tant mieux, parce que vous aidez votre enfant. Mais pensons à ceux qui, justement, ont des parents qui sont tellement occupés, qui ont tellement de difficultés et de charges mentales que ce n'est pas leur souci de montrer, leur souci premier, de montrer des films aux enfants. Et là, c'est le rôle de l'école. Et c'est le rôle des salles de cinéma. Donc, Passeurs d'images continuent le travail. Ils ne le font pas comme nous, mais ils le font. Et donc, ça veut dire qu'il y a en France, des milliers d'écoles dans lesquelles, trois fois par an, les enfants sont emmenés par les professeurs des écoles dans des salles de cinéma pour voir des films et que quelque chose de la réappropriation esthétique se passe. Alors après, ça change selon l'âge. Par exemple, ça peut être de faire des dessins à partir du film qu'on a vu pour voir si tout a été bien assimilé, ce qu'en pense l'enfant. Si par hasard il n'est pas terrorisé par ce qu'il a vu, parce que ça peut arriver. C'est très important de réagir très vite pour dégoupiller ce qui peut s'avérer une grenade qui exploserait la nuit d'après où l'enfant fait des cauchemars.
Ouais.
Donc ça peut être des dessins, ça peut être du texte, ça peut être fabriquer des objets, ça peut être faire des petits flipbooks, vous savez. Ces tout petits livres qui sont constitués de dizaines d'images qu'on effeuille en quelque sorte et qui font un dessin animé. Il y a mille façons d'aborder ça dans le primaire, mais c'est très important de continuer à ça. Et j'espère que l'État ne va pas démanteler ça. Je l'espère vraiment. Ça coûte de l'argent, c'est sûr. Et nous sommes dans une période difficile. Mais former les enfants à s'approprier les images, il me semble que c'est une vraie urgence.
Très bien. On va avancer un peu plus tard dans l'âge des personnes à qui vous êtes adressé, et pas forcément dans l'interview parce que c'est passionnant, mais vous avez aussi été directrice des études à la FEMIS, donc l'ancienne IDEC, et pour nos auditeurs, l'école publique française de formation au métier de l'image et du son. Comment on devient directrice des études à la FEMIS ?
Oh, comme dans une comédie musicale. Comme je fais partie des gens qui ont travaillé depuis les années 80 sur la question de l'enseignement du cinéma. Pour vous donner un exemple, en 84, j'ai été contactée par le cabinet de Jacques Lang parce qu'ils avaient décidé de prendre 10 classes et 10 exploitants de salles en France pour imaginer quelque chose qui n'existait pas, à savoir l'enseignement du cinéma en lycée. Donc j'ai fait partie des pionniers qui se...
Les options, cinéma au lycée,
c'est...
Ouais, c'est ça.
Et c'était absolument génial. On était au lycée Fermat à Toulouse. Le concierge venait nous virer vers 19h en disant « Enfin, madame Desbarats, enfin, c'est fermé, il faut partir maintenant. » Et je vous assure que je ne retenais pas les élèves qui avaient vraiment conscience de faire quelque chose de neuf. Et j'ai enseigné en collège d'abord en français.
D'accord.
J'ai piraté mes propres cours pour parler de cinéma, bien évidemment. Mais je suis ensuite passée à la fac, à Toulouse. Il y a une très bonne fac qui s'appelle l'ESAV, l'École supérieure d'audiovisuel, qui est une école magnifique, sauf qu'elle n'a pas d'argent. C'est la différence avec la FEMIS. Elle n'a pas de sous, donc elle ne peut, pas avoir les mêmes objectifs que la FEMIS. Et un jour, mon téléphone a sonné. On m'a dit, voilà, il y a la révolution à la FEMIS. Ils ont occupé les locaux. Ça se passe très mal. La direction va partir. Est-ce que vous voulez être directrice des études ? J'ai dit oui. C'est tout. Oui. Voilà comment ça s'est passé.
Oui, oui. Par votre travail auprès des enfants de cinéma, puis de la FEMIS, vous devez avoir marqué la cinéphilie de beaucoup de jeunes gens qui sont, espérons-le en tout cas, devenus des adultes aujourd'hui. Et la vôtre de cinéphilie, elle est née comment ?
Alors, je ne sais pas si j'ai marqué la cinéphilie des élèves, j'espère.
Bah, forcément, je veux dire, par la force des choses.
Mais enfin bon, c'est un autre sujet. La cinéphilie des jeunes d'aujourd'hui est une vraie question énorme. Elle est complètement... Je tiens quand même à le dire. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas du tout la même cinéphilie qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'ils connaissent beaucoup de choses, mais c'est totalement éclaté. Et pour eux, un film qui a plus de 10 ans est un vieux film. Donc, le rapport au patrimoine est quelque chose qu'il faut vraiment penser. Le patrimoine, ça peut être... La Boum, c'est un film du patrimoine.
Bien sûr, oui.
Voilà. Donc ça, c'est un sujet... Bon, ma cinéphilie... Moi, j'ai une enfance au Maroc. Et au Maroc, la culture cinématographique est très, très, très importante. Soit parce que vous voyez, vous faites partie des gens qui n'ont pas trop de sous au Maroc et vous voyez des films égyptiens. Et vous pleurez toutes les larmes de votre corps dans les mélos égyptiens. Soit vous faites partie d'une moyenne bourgeoisie, ce qui était mon cas, et vous voyez des films américains. Et vous voyez des films américains, des westerns, des polars, des mélos, effectivement. Moi, j'ai eu la chance que mon oncle, le frère de mon père, s'occupe de Universal, la grande firme, pour Casablanca et pour le Maroc. Et donc, le dimanche après-midi, il faisait un truc extraordinaire dont je ne me rendais pas compte que c'était absolument hors de l'ordinaire. Il apportait des bobines dans le garage et j'ai vu des Douglas Sirk, j'ai vu des Howard Hawks, j'ai vu Atari, j'ai vu Ligne Rouge 7000. J'ai pleuré à Mirage de la vie 10 fois.
Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, j'allais vous en parler. C'est incroyable, incroyable.
Voilà. Et donc, c'est ça ma cinéphilie. Mais moi, je ne savais pas que c'était des chefs-d'œuvre. J'ai eu la chance de les voir entourés de ma famille, ma tante qui comptait les morts dans les westerns. Donc, c'est pas possible, il y a encore des morts. Bon. Et ça s'est fait comme ça. Et après, vers 14-15 ans, j'ai bénéficié de quelque chose à Casablanca. Il y avait un institut culturel français. Parce que encore sous protectorat français. Et il y avait un cours de cinéma d'un ancien de l'IDEC, un petit monsieur qui, 2 heures par jeudi après-midi à l'époque, nous expliquait que quand on mettait la caméra dans un certain sens, ça pouvait vouloir dire quelque chose. Et je me souviens de mon émerveillement quand il nous a expliqué que dans Goupil Main Rouge, le fait que le personnage était juché en haut de l'arbre et qu'on le prenne du bas vers le haut, c'est-à-dire en contre-plongée, ça donnait une impression d'écrasement. Et là, moi, c'est moi qui étais écrasée dans le fauteuil, j'ai compris tout, quoi. Je me suis dit, ah bon, ça veut dire beaucoup plus que ce que j'ai vu. Et c'est, je crois que c'est ça que j'essaie de faire depuis. Essayer de proposer à des gens ce que moi, j'ai vécu comme un émerveillement.
Ouais, je comprends. Ouais, je comprends parfaitement.
J'ai été gâtée, en fait.
Ouais, c'est vrai, c'est une grande chance.
Oui,
c'est une grande chance parce que moi, j'ai pas eu cette chance-là.
Vous avez vu des films à la télé ?
J'ai vu beaucoup de films à la télé, beaucoup de films au cinéma. Mes parents me laissaient beaucoup aller au cinéma tout seul. Par contre, mes parents n'avaient pas du tout c'est pas du tout des cinéphiles, ça les intéresse pas.
Non, mais qui vous a laissé aller au cinéma énorme.
Oui. Bah, ma mère me laissait beaucoup lire ce que je voulais aussi. Donc ça, c'est les livres, c'était un peu son cinéma à elle. Donc j'ai eu accès à ça aussi. Ça, c'est une grande chance. Bon, enfin, de toute façon, je suis privilégié clairement. Hein, mais par contre, ma culture ciné, je l'ai faite tout seul, complètement tout seul. C'est-à-dire, j'ai
et
pas fait d'école.
Pas eu, vous aviez l'âge d'avoir lycéen au cinéma.
Je l'ai pas eu ça. Non.
Personne.
Non, j'ai pas eu ça.
Parce que ça joue un rôle aujourd'hui.
Bah oui, clairement.
Les profs passionnés qui emmènent, que ce soit dans école et cinéma, collège au cinéma ou lycéen au cinéma, lycéens et apprentis au cinéma. Il joue un rôle dans la constitution de la cinéphilie. Parce qu'un gamin qui voit un John Ford et qui ne sait pas que c'est pour lui, il croit que ce n'est pas pour lui.
Ouais, bien sûr.
Mais on l'emmène et il s'aperçoit que oui, il comprend, il aime, ou il déteste, ou il s'ennuie, c'est un droit absolu. Eh ben, c'est une chance, effectivement, aussi.
Mais d'ailleurs, j'ai un de mes auditeurs que je connais bien, c'est un ami qui est prof d'histoire-géographie au lycée français de Taïwan et qui est en charge de l'option cinéma, donc j'en profite pour le saluer.
Absolument.
Je voudrais maintenant qu'on s'arrête un petit peu sur votre activité, alors que moi j'appelle de critique, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ce mot. On parle souvent de la critique cinéma, bien dans les médias en général. C'est étrange parce que moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est un travail dont on connaît bien les résultats. Donc effectivement, on va créer une critique, on va écrire une critique ou faire une critique à la radio. Dans tous les cas, on l'écrit. Mais on connaît assez peu l'activité qu'il y a derrière, à part l'écriture, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment ça fonctionne concrètement d'être critique au cinéma ?
Alors, il y a deux catégories de critiques. Il y a les critiques professionnelles et les critiques occasionnelles, comme moi. C'est-à-dire, il y a les gens qui vivent de ça et qui sont tous les matins dans des salles de cinéma pour voir des films. Et il ne faut pas croire que ce soit si drôle que ça de voir un film le matin, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et puis, vous avez les gens comme moi qui écrivent dans des revues qu'ils aiment. Moi, j'ai la chance d'être publié dans Esprit. Là, je viens d'écrire un texte pour un ouvrage collectif au CNRS sur les séries. Mais c'est pour moi la même chose que d'écrire sur le cinéma, sauf que c'est plus long, hein, mais c'est pareil. Et donc, moi, je fais partie de cette deuxième catégorie. Donc, les problèmes spécifiques des critiques de cinéma, il faudrait en parler, demander à quelqu'un d'autre de le faire. Mais par exemple, le fait que parfois, les critiques ne sont pas invitées à certains films quand les cinéastes n'ont pas envie qu'on dise du mal de leurs films, ça, c'est quelque chose qui a une dizaine, une vingtaine d'années, ça n'existait pas avant. Et je pense que ça encombre pas mal les critiques. Moi, c'est pas ça. Moi, j'ai été formée par un maître qui s'appelle appelé Jean Doucher, qui était quelqu'un qui travaillait dans l'oralité. C'était un magnifique critique, mais il écrivait très peu. Il parlait énormément, il était invité dans tous les cinémas en France. Et moi, je l'ai écouté et j'ai appris de lui une chose essentielle que je garde encore aujourd'hui, qui est que la critique, c'est l'art d'aimer. C'est-à-dire que, bien sûr, si un film est un film dangereux, il faut avoir le courage d'écrire contre et de développer vraiment un argumentaire contre, et pas une vindicte, pas de la haine, pas du mouvement d'humeur, de l'argumentation. Mais sinon, moi je fais ça en plus, pour mon plaisir. J'ai été prof toute ma vie, moi. Donc je fais ça en plus, je choisis des films que j'aime. Et en plus, dans la mesure où je ne suis pas affilié à un journal et que je n'ai pas des impératifs, c'est moi qui téléphone en disant oh, « j'aimerais bien écrire là-dessus ». Donc là aussi, je suis gâtée, je ne suis pas du tout représentative. Après, comment on travaille ? Vous voyez la table du fond, là, qu'il y a au café où nous sommes, là, rue Montmartre à Paris. C'est ma table, le matin, je viens tous les matins avec mon ordinateur, et j'écris là-dessus. Avant, j'ai vu deux fois, trois fois le film.
Oui, bien sûr.
Alors, je l'ai vu de préférence quand c'est possible en salle. Ce n'est pas toujours possible. Et puis après, je le revois en DVD avec un lien, etc. Ça aussi, c'est un sale truc qui est en train de se développer. C'est le fait que les projections de presse se réduisent parce que ça coûte cher et que donc, de plus en plus, les critiques voient les films sur leur télé. On leur envoie des liens et ils les voient quand ce n'est pas sur l'ordi.
Ouais, ce qui n'est pas...
C'est pas le même rapport. Vous n'avez pas le même rapport émotionnel. Vous ne voyez pas les mêmes choses. Je veux dire, je ne parle pas de détails, je parle de... d'une atmosphère.
J'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu, que vous développiez là-dessus. Non pas parce que je ne comprends pas, mais parce que je réalise que moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Le rapport à la salle, le rapport à l'écran, ce déclic, il s'est fait, alors que je vois quand même des films depuis longtemps, il s'est fait, je dirais, il y a un ou deux ans, quoi. Pas avant ça. Et en fait, j'ai compris il y a un ou deux ans que l'important, ce n'était pas le spectacle, chose que je défendais longtemps. Et vous me direz si vous êtes d'accord en disant on va au cinéma pour voir un spectacle. En fait, j'ai compris il y a un ou deux ans qu'on va au cinéma pour voir les choses en grand, pour s'immerger dedans. Et que si on va voir quelqu'un qui est triste à l'écran, on a besoin de voir son visage et d'être au plus près de lui pour ressentir cette tristesse, ressentir cette émotion-là, ou cette joie, ou cette colère, ou que sais-je. Hein. Je veux dire par là qu'on s'immerge en fait dans des émotions, chose que je n'avais pas forcément compris.
Alors, vous ne l'avez pas compris, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez commencé par les films à la télé.
Oui.
Et que donc, l'habitat naturel du film pour vous, c'est la télé. voir peut-être votre écran de téléphone.
Non.
J'espère que non.
Non,
quand même.
Non, voilà, non, ça non. Là, mais je suis pas de cette génération-là.
Là, c'est trop
mais
petit,
c'est, ça vous honore de dire que je suis si jeune, mais, mais je suis pas de cette génération-là, non.
Mais effectivement, il faut avoir vécu le choc que c'est, comme disait André Malraux, de voir la tête d'un acteur plus grande que la vôtre. Et c'est exactement ce que vous disiez sur l'émotion. C'est évident que vous avez un close-up, un plan de prix de très près sur un visage, s'il prend tout l'écran et que vous êtes là devant, vous êtes saisi, l'émotion est infiniment plus forte et ça n'est pas que l'image, c'est aussi le son.
Le son, ouais,
mais c'est aussi le noir. C'est aussi le fait que vous avez payé pour rentrer dans une salle et que vous avez fermé la porte derrière vous. Vous vous êtes volontairement coupé de la place publique. Et en plus, vous êtes dans une communauté éphémère avec des gens que vous ne reverrez jamais, mais qui vont rire peut-être en même temps que vous, peut-être pleurer en même temps que vous. Et il y a tout cet ensemble de conditions qui ne sont pas celles de votre salon.
Non, clairement pas.
Par définition. Alors après, ce qu'il faut, c'est travailler cette question pour les gens qui ne la connaissent pas. Je sais qu'à un moment donné, on avait travaillé avec les enfants de cinéma. On faisait... je vous donne un exemple très concret. C'était... Pour que les enfants se rendent compte de ce que c'était que la salle, d'abord on leur disait, vous rentrez dans un endroit séparé. Et comme vous savez, le sacré, c'est ce qui est séparé.
Bien sûr.
Et donc, vous ne vous comportez pas de la même manière qu'à l'extérieur. Ensuite, il y avait un rituel. C'est-à-dire qu'on leur faisait... Parce que les petits peuvent avoir très peur du noir. Donc, il ne fallait pas que le noir s'éteigne brutalement. Et il arrivait souvent que les enseignants disent « Vous levez les bras tous !» Et maintenant, vous baissez tout doucement les bras. Et pendant ce temps-là, le projectionniste baissait la lumière. Donc, ils avaient l'impression de maîtriser la lumière. Et donc, il y avait un apprivoisement. Et un apprivoisement du lieu. Mais avec des lycéens, on avait aussi fait des sortes de petites pastilles de travail où on prenait du son sur un DVD, une séquence. On la faisait voir sur un DVD, puis au cinéma, on montrait la même séquence, la petite pastille, avant la séance de lycéen au cinéma.
Ouais.
Et le choc, il n'y a pas besoin d'expliquer. Hein.
Non, là, c'est sûr.
C'est pas la peine de... Ils sont intelligents. Et donc, ça suffit. Donc, c'est vrai qu'il faut donner l'occasion de voir. Mais les gens, quand ils ont vu un film, et s'ils ont vu le même film, sur un écran d'ordi et dans une salle, tout seuls, ils font la différence. Mais encore faut-il qu'ils aient la chance.
Oui, bien sûr. Alors, en tant qu'essayiste du cinéma, quel regard portez-vous donc sur l'évolution du média cinéma ? On parlait de la salle à l'instant. Il y a eu un moment où la 3D semblait être un argument potentiellement assez lourd pour accueillir de nouveau des gens dans les salles. Bon, ça a été, c'est un peu un marronnier, hein, parce que cette histoire de 3D, où on va faire venir les odeurs, l'odorama, tout ça, on voit bien que ça dure depuis des années et des années. On voit, à quelques exceptions près, que c'est pas vraiment le cas. La salle semble ne plus attirer, alors que paradoxalement, les films continuent de se faire et de se voir, mais ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et une fois de plus, c'est votre regard donc d'essayiste cette fois-ci qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
D'abord que ça s'est accentué à une vitesse grand V avec le Covid. C'est-à-dire que cette tendance qui existait, que les gens voient plutôt les films sur les plateformes que dans les salles, ou en DVD que dans les salles, là, avec l'habitude qui a été prise pendant le confinement, c'est difficile, on n'arrive pas à revenir au niveau de présence dans les salles d'avant 2020. Donc, moi, je le regrette énormément, bien sûr, parce que les gens se privent de quelque chose d'important. Mais en même temps, il faut regarder les choses en face. C'est comme ça, actuellement. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut essayer de trouver des parades. Quand le Covid a commencé en 2020, Esprit a voulu faire la revue à laquelle je participe, a voulu faire un dossier sur la culture au mois de juin. Et on a fait ce dossier qui s'appelait « La culture au tournant ». Et moi, j'ai eu en charge l'article sur les cinémas. Et j'ai fait une enquête. Et ce qui est sorti très nettement de l'enquête, que ce soit auprès de François Aimé, qui est le patron des salles d'art et essai de France, que ce soit des gens du GC ou que ce soit des petites salles, c'est que maintenant, il ne fallait plus penser passer le film sec. Ce que j'appelle le film sec, c'est le film point barre.
Oui, c'est un point de vue qu'il a défendu, François Aimé, dans le dernier le FNCF, le à Deauville, le forum. J'étais étonné, comme lui, de voir que les gens sur la scène n'en parlaient pas.
Mais c'est lui qui a raison. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit que les nouvelles salles, il y a des salles qui s'ouvrent, hein, faut pas croire. Il n'y en a pas énormément, mais il y a des salles qui s'ouvrent ou qui changent de management. Et il y a des jeunes exploitants de salles qui arrivent, qui sont pleins d'envie et de faire autrement. On s'aperçoit qu'effectivement, ils ne se contentent pas du film tout seul. Alors, certains l'accompagnent d'éléments par Internet, des jeux qui accompagnent ça, ou bien une programmation où on suggère aux cinéphiles d'un quartier de dire quel film vous aimeriez voir, ou bien d'un intervenant. Mais ça, il faut de l'argent, parce qu'il faut faire bien l'intervenant, il faut le loger. Enfin, c'est, même si vous ne le payez pas, c'est quand même des sous. Ou bien de faire des comparaisons entre, par exemple, deux films différents. C'est-à-dire ne plus proposer le film tout seul. Et ça, ça demande de la volonté, ça paye. Ça paye, je ne parle pas financièrement, mais ça paye au niveau de la présence des gens. Les gens ont envie de venir dans les salles pour voir ça. Ils ont envie de venir pour qu'on leur parle autour du film, soit du projet du film, soit du sujet du film. Je vais prendre un exemple. Il y a à Paris un ciné-club qui s'appelle Barberousse, qui se passe au Nouvel Odéon, c'est ça, rue des Écoles à Paris. C'est un samedi par mois, le matin, et dimanche matin, et il y a trois personnes qui animent ça, une universitaire, Madame Lefeuvre, un journaliste de Slate, Jean-Michel Frodon, et le directeur des hôpitaux de Marseille, François Crémieux, qui monte de Marseille, parce qu'il est cinéphile, pour animer un débat autour d'un film qui traite de questions de santé. La force de ce ciné-club, c'est que c'est un vrai ciné-club. On parle de cinéma, mais on parle aussi des problèmes de santé à travers ça. Et les gens sont là, et la salle est pleine. La dernière fois que j'y suis allée, c'était une salle pleine de psychiatres, parce que c'était un film sur la psychiatrie, et il y avait quelques cinéphiles qui ont dit « Attendez, moi je voudrais parler de la façon dont le plan est tourné. » Et donc, les gens se sont apportés des choses comme ça, en croisement. La salle était pleine le matin.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que du coup, il y a un shift qui est en train de s'opérer, si vous me permettez ce néologisme, où en fait, avant, on avait un cinéma qui était plus du divertissement, et aujourd'hui, on a un cinéma qui va plus vers le rendez-vous culturel, un peu comme un musée, ou comme une exposition, où il y aurait un débat, où il y aurait un échange autour du film, autour de l'œuvre qu'on va voir.
Pas tout à fait, parce que le cinéma divertissement, il continue dans les grands circuits. Il continue, la série des « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?», c'est du cinéma de divertissement. Je m'abstiendrai de le juger, mais enfin, j'ai écrit dessus, longuement pour expliquer.
Nos auditeurs iront chercher.
Mais il y a du cinéma de divertissement, mais ce n'est pas celui-là qui est en panne. C'est le cinéma qui est moins immédiat, qui demande un petit effort. Le petit effort, c'est résister aux campagnes de pub. C'est tout, c'est ça l'effort. C'est pas le film qui demande un effort.
On revient à votre affirmation du début.
Tout à fait. Ben oui, on n'a pas beaucoup d'idées dans la vie. C'est vrai, Einstein disait, moi j'ai pas de carnet, hein, j'ai eu qu'une idée dans ma vie.
Si on s'intéresse maintenant au fond et plus tellement à la forme, quel regard portez-vous sur les films actuels ? J'aimerais notamment que vous nous parliez, si c'est une chose avec laquelle vous êtes à l'aise, des deux grands chemins radicalement différents que semblent prendre les films dernièrement. Soit on assiste à un spectacle visuel fort, mais souvent creux en termes de mise en scène, qui sort de studios surpuissants, qui maîtrisent leurs produits finis de bout en bout, et là on parle quasiment presque de publicité en fait. Hein. Soit au contraire, on est dans un cinéma plus viscéral, et si on regarde les prix des festivals les plus importants dernièrement à Cannes, à Venise, à Saint-Sébastien, bon je les considère comme plus importants, mais il y en a certainement plein d'autres qui sont tout aussi importants, on s'aperçoit que les films primés sont tous des coproductions internationales, des films qui interrogent parfois violemment la société dans laquelle on vit. J'aimerais bien connaître votre point de vue là-dessus.
Alors moi, j'ai toujours l'espoir que les choses ne sont pas simples. Je pense que c'est une garantie de liberté intellectuelle. Si vous voulez, moi je me suis régalée à Bullet Train cet été. Je l'ai même vu deux fois. Mmh. Parce que je trouve que c'est un film de divertissement qui ne me prend pas pour une idiote. Et qui développe un imaginaire, une fantaisie, un savoir-faire. Brad Pitt est génial dedans. Et je l'ai conseillé à tous mes amis. À côté de ça, il y a des tas de blockbusters que je ne vais même pas voir. J'y vais de temps en temps parce que je sais qu'en tant qu'ancienne directrice de la FEMIS, on me dit « Alors, mais qu'est-ce que t'en penses ?» Donc je me fais une obligation de le voir parce qu'il ne faut jamais dire de mal d'un film sans l'avoir vu. Mais ça rentre dans la première catégorie que vous dessinez. Mais il faut toujours être aux aguets dans cette première catégorie, il peut y avoir des Titanic, il peut y avoir des bullet train, il peut y avoir des avatars, il peut y avoir des moments dans lesquels quelque chose se passe qui est tout à fait intéressant et qui réunit des millions de personnes. Et ça, c'est bon à prendre. Après, le côté déclinaison de la franchise Marvel...
Ouais, c'est plus à ça que je pensais. C'est,
vous pensez à ça. Et ça, je ne vais pas dire que ça me ravit. Je ne peux pas dire que ça me ravit. J'ai rien contre que les gens aillent le voir, mais j'aimerais que les gens qui vont voir ça, on puisse leur proposer aussi d'aller voir autre chose, de se régaler à autre chose. Quant à la deuxième catégorie de films, vous disiez viscéraux. Est-ce que vous voulez dire par là qu'ils s'attaquent à des grands problèmes de société ?
Non, pas nécessairement. Je parle surtout en termes de mise en scène, en termes d'utilisation vraiment de tout ce que le cinéma nous offre, qui est donc une œuvre audiovisuelle. Et si vous voulez, pour caricaturer un peu, parce qu'une fois de plus, je n'ai pas vu tous les Marvel, et même ce serait ridicule de généraliser, même si on voit bien qu'il y a quand même des formules qui s'appliquent, c'est indéniable. Je dirais que dans les Marvel, j'ai rarement vu de la mise en scène. Chose que j'ai pu voir dans d'autres films qui sortent actuellement. Alors après, on peut les aimer ou pas les aimer. Là, je cite comme ça, sans réfléchir, Decision to Leave de Park Chan-wook, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, ou alors 3000 ans à t'attendre de George Miller, qui sont, il me semble en tout cas, des films où la mise en scène a un rôle à jouer, où il y a vraiment quelque chose qui se joue, si vous voulez. Quoi. J'ai l'impression plutôt que Marvel, on va appliquer une formule et on va...
Sans vouloir
attaquer Marvel, parce que une fois de plus, pour moi, c'est du divertissement. Ça me touche pas, mais je veux dire,
Ça correspond à des savoir-faire, à du cinéma. Moi, j'appelle ça le cinéma industriel. Voilà. Donc, ça existe, il y a des gens qui en vivent. Et puis, il faut dire aussi aux auditeurs, certains le savent, mais d'autres ne le savent pas, que quand un film américain passe un Marvel et qu'il remplit une salle, il y a de l'argent qui va au Centre national du cinéma français, parce que dans chaque billet, vous avez une petite part, 15% ou 16%, je ne sais plus exactement, qui s'appelle la TSA, qui est une taxe qui retourne au Centre national du cinéma et qui alimente ce qu'on appelle les avances sur recettes, c'est-à-dire un système où cet organisme d'État qui est le CNC donne de l'argent à des films pour qu'ils puissent se faire. Et ces films en question, c'est les deuxièmes parties dont vous parliez.
Oui.
C'est ceux qui, effectivement, font appel à la mise en scène, n'ont en général pas des gros budgets et ont besoin de l'aide. Donc c'est pour ça que moi, je suis mesurée.
Bien sûr.
Je dis, continuons à voir les films américains tant que ça va permettre à Claire Simon de faire un film. Moi, je suis pour. Voilà. Maintenant, on n'est pas dupe de ce que ça représente, de ce que ça véhicule comme stéréotype. Ça, c'est sûr que c'est très, très dommage. Mais pour les autres films, je n'arrive pas à voir une tendance générale. Je vois la préoccupation des grands festivals de faire place aux dossiers, de faire place aux grands sujets. De plus en plus, je le déplore. Je trouve que les grands festivals, j'en attaquerai aucun en particulier, ont envie de favoriser les films qui parlent des grands problèmes de la société.
Mmh.
Et moi, s'ils en parlent intelligemment et avec sensibilité, ça me va. Si c'est juste un dossier de l'écran, je m'en fous. Donc c'est pour ça que je ne vois pas une unité. Et en même temps, je vois des jeunes cinéastes qui arrivent et qui font des choses formidables. Là, j'ai vu coup sur coup la semaine dernière deux films de mes anciens élèves. Alors, évidemment, je suis fière comme Martaban. Je suis pour rien, bien évidemment. Ça va de soi. Ça va de soi. Mais je suis quand même très fière. Alice Vidoncourt a fait Revoir Paris. Rebecca Zlotowski fait Les Enfants des Autres. C'est des films très différents. En même temps, c'est des jeunes femmes qui ont à peu près le même âge, qui ont été à un an près, je crois, dans les mêmes promotions, donc qui ont la même formation. Mais là où Rebecca Zlotowski travaille le mélo, et moi, chez moi, le mélo, c'est une qualité, c'est pas un défaut. C'est-à-dire travailler sur l'émotion, susciter les larmes, mais les larmes au sens de l'empathie, où on est dans l'empathie avec les autres, avec ceux qui souffrent, bien évidemment, ou une situation difficile. Alice Vinocourt est tout en retenue, alors qu'elle a un sujet explosif. Elle traite des attentats du Bataclan et de comment son héroïne principale va recouvrer la mémoire. Et elle travaille dans une pudeur absolue, là où Rebecca Zlotowski y va sur l'émotion. Et je trouve ces deux films extrêmement différents, extrêmement réussis. Et donc, ils coexistent en ce moment. Donc, je ne sais pas si... Moi, je n'arrive pas à voir une tendance générale. La tendance générale, je la vois ailleurs et elle me désole. C'est par exemple le fait que les gens qui font du documentaire ont de plus en plus de mal à trouver de l'argent pour faire des documentaires. Alors qu'en France, il y a une école de documentaire de la création qui est, qui est exceptionnelle. Qu'on a eu des gens comme Nicolas Philibert, comme Denis Gerbrand, comme Claire Simon, qui nous ont fait des choses, mais qui apportent énormément, que vous pouvez revoir aujourd'hui. Vous revoyez aujourd'hui un film de Claire Simon de 92 qui s'appelle Récréation, mais c'est un film d'aujourd'hui. Elle a planté sa caméra dans la cour de récréation et elle a filmé la brutalité et la cruauté des enfants. Elle n'a pas touché, elle n'a rien mis en scène. C'est eux qui sont là, elle a juste monté. Et elle a filmé et monté et elle a su voir les histoires. Mais c'est un film d'aujourd'hui. Donc, cette difficulté du documentaire, oui, ça c'est quelque chose qui me préoccupe. Je trouve que les films se font de plus en plus difficilement. Le Covid, là aussi, ça a fait du mal, quoi. Ça a vraiment fait du mal.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au cinéma pour les 10 années à venir, 5 années à venir ?
Que les écoles de cinéma continuent, parce qu'il y a des écoles de cinéma, il n'y en a pas qu'une, continuent à faire leur boulot. Qu'elles continuent à former aussi bien les réalisateurs, les techniciens, parce qu'il n'y a pas que des réalisateurs. Hein. Si vous n'avez pas un bon technicien du son, vous pouvez toujours essayer de faire un film, hein. Ça ne va pas le faire. Qu'elle continue aussi à former, comme le fait la FEMIS, des exploitants de salles informés, ouverts, curieux, qui vont soit dans les circuits, les grands circuits, qui vont soit dans les cinémas d'art et essai. Donc, qu'il y a un rôle des écoles, je crois qu'il faut vraiment le penser. Que l'État continue à soutenir les dispositifs écoles et cinéma, collèges au cinéma, lycées au cinéma. Parce que c'est former les enfants et les jeunes à un appétit de cinéma qui est différent de ce que le marché leur propose. Des choses comme ça, ça peut servir au cinéma. Il n'y a pas que le fait d'augmenter les budgets des films qui va servir. Il y a aussi travailler à ce qu'on rende vivant le public de cinéma, on le maintienne vivant, qu'on ne soit pas simplement, comme c'est un peu désespérant dans les salles d'art et essai, avec des gens qui ont des cheveux gris. Je les aime, j'en fais partie. Mais j'aimerais bien voir aussi des jeunes dans les salles. Et quand, par exemple, cet été, nous en avons 2022, dans la rétrospective Tanaka, faite par... Il y a des gens formidables qui sont des inventeurs. Inventeurs, vous savez, comme on dit, on a inventé une grotte parce qu'on a trouvé une grotte. Donc quelqu'un comme Vincent Paul Boncour, qui, pour Carlotta Film, décide de sortir 6 longs métrages d'une cinéaste absolument oubliée. Moi, j'en connaissais pas le nom, je connaissais son nom en tant qu'actrice et pas en tant que réalisatrice. Des années 50, japonaises. Et qui sont des pures merveilles, des chefs-d'œuvre absolus. Mais là, il fait beaucoup pour le cinéma. Et c'est pas le cinéma d'aujourd'hui. Sauf que vous le voyez, vous sortez et vous vous dites « Ah oui, ça me... j'ai appris des choses sur moi ».
Très bien. Merci, Carole Desbarats, pour votre patience, votre mesure et votre gentillesse.
Merci.
Et puis, bonne continuation.
Et bonne chance pour vos podcasts.
Merci
beaucoup.
Bien
d'en faire.
C'est gentil. Cet épisode est déjà terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le fabriquer. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez 5 étoiles sur les plateformes qui le permettent et parlez-en autour de vous. C'est la meilleure manière de faire connaître le podcast. Cinexplore est un dérivé de Cinécure, un podcast créé et réalisé par moi, Charles-Édouard Wasselin, pour Vaisseau Hypersensas, dont je remercie tous les membres pour leur patience et leur bienveillance. N'oubliez pas que sur le Discord du Vaisseau, vous trouverez un channel Cinécure où nous discutons de tout ce qui est abordé dans le podcast et bien plus encore. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Cinécure. D'ici là, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films. Ciao !